Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Okapi.
Fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons de l'importance de la formation de sages-femmes. Et pour ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. J'ai en face de moi Gilbert Kasuku, infirmier spécialiste au programme de prévention de la transmission du virus VIH-SIDA de la mère à l'enfant à Longe Médecins Sans Frontières. Monsieur Gilbert Kasuku, bonjour, c'est bien ça votre nom?
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'accord. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Mami Iwanza, conseillère psychosociale au programme de transmission mère-enfant, toujours concernant le VIH-SIDA, toujours aussi à l'organisation Médecins Sans Frontières. Bonjour madame, merci d'être venue dans ce studio pour parler de l'importance de la formation du sage-femme. Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ces sujets composés. Les 081 890 63 94 ou aussi nous appeler au 099 716 63 94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiokapi.net. Merci à tous et toutes celles qui, bien entendu, ont réagi sur la page Facebook Okapi Service.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre émission.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Le monde célèbre le 5 mai de chaque année la journée internationale des sages-femmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. C'est le thème choisi pour la célébration de la journée internationale des sages-femmes en 2021. La Confédération internationale des sages-femmes lance un plaidoyer en faveur d'investissement dans la formation des sages-femmes afin d'améliorer les travaux de consultation prénatale. C'est peine en sigle également de délivrance des femmes enceintes. Quelle est donc l'importance de la formation des sages-femmes? Je le disais, nous en parlons dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service avec nos deux invités. J'ai en face de moi pas Gilbert Kasuku, mais plutôt Galbert Kasuku, infirmier spécialiste au programme de prévention de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant, PTME, en sigle allongé, Médecins Sans Frontières. Monsieur Galbert Kasuku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je vous disais, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de madame Mami Iwanza, qui est conseillère psychosociale, toujours pour ce qui est de la prévention de transmission du VIH-SIDA mère à enfant, allongé, Médecins Sans Frontières. Madame Mami Iwanza, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, avant de parler de cette formation de sage-femme, il est important de dire à nos auditeurs à mieux encore comprendre les concepts de sage-femme, parce que lorsqu'on parle d'une sage et femme, on a toujours pensé qu'il s'agit d'une femme, alors qu'il s'agit bel et bien d'une profession.
Bien sûr, comme vous l'avez dit, la profession sage-femme, bon, c'est une profession qui concerne et les hommes et les femmes.
Tout à fait.
Il y a la sage-femme, c'est une personne qui a suivi une formation sur la sage-femme en fait dans son pays et reconnue sur le plan pays que cette personne-là a suivi une formation de sage-femme. Et c'est en guise de ça aussi, si vous me le permettez, je dois dire un mot concernant ces femmes qui travaillent au quotidien pour le bien-être des femmes enceintes et surtout...
Ces femmes et ces hommes.
Ces femmes et ces hommes.
D'accord.
Qui ont choisi d'être appelées sages-femmes,
oui,
en fait.
Oui.
Donc, c'est pour moi une opportunité de les encourager dans leur travail parce qu'il faut un travail de qualité chaque jour, surtout en ce qui concerne leur profession.
Alors, pour parce que je vous parle de l'importance de la formation des sages-femmes et puis le thème choisi pour la célébration de cette année, c'est les chiffres parlent d'eux-mêmes, investir dans les sages-femmes. Et pourquoi ce thème?
Le thème, c'est choisi par la Confédération internationale des sages-femmes, en fait. Et ce thème, comme vous le dites vous-même, comme le thème le dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pourquoi? Parce que quand on regarde, voire même les indicateurs du travail que les femmes sages font sur le terrain sont évidents. Il y a des évidences qui montrent que le travail de la sage-femme vraiment, elle est vraiment intense. Je vous donne le cas, par exemple, pour notre projet, le projet VIH, le travail que nous faisons au quotidien. C'est d'amener toute femme enceinte de se faire dépister. Et tout pour convaincre une femme enceinte de se faire dépister, il faut des techniques, il faut une compétence, il faut de l'endurance. Et ça, ces femmes-là, étant donné qu'elles étaient, les sages-femmes sont formées en matière de PTM, elles sont formées en matière de comment conduire un accouchement sans risque. Et c'est ça au moins qu'on veut montrer que investir sur la femme, ça a de la valeur en fait, parce que ces femmes sages interviennent dans la vie au quotidien de famille, dans la santé de la reproduction de la famille. Donc voilà un peu pourquoi on veut dire investissez sur la sage-femme. Il est temps d'investir sur la sage-femme en fait, parce qu'ils ont des compétences, ils ont des atouts majeurs en ce qui concerne la qualité du travail qu'ils réalisent sur terrain plutôt.
Voilà, avant de me tourner vers Madame Mamie Wanza, qui est conseillère psychosociale pour ce qui est de la prévention, de la transmission du VIH/SIDA de la mère en enfant, j'aimerais d'abord vous poser cette question, Monsieur Gilbert Ekasukou. Aujourd'hui, pour ce qui est de la formation de sages-femmes, quelles sont les difficultés rencontrées?
Les difficultés rencontrées sont énormes d'abord. Oui. D'abord, en termes sur terrain. Sur terrain, et en ce qui concerne, par exemple, le volet PTM. Vous voyez? Ce n'est pas toute personne toute femme qui essaye d'accepter de se faire dépister. Et le sage-femme font un effort de convaincre la femme à se faire dépister. Et comme nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les autres équipes qui nous accompagnent dans ce travail-là, c'est le cas de Madame Mami qui est à côté de nous aujourd'hui. Donc nous faisons un effort. Ils ont des difficultés par rapport à ce sujet. Il y a d'autres difficultés liées au matériel de travail. Par exemple, une femme, la sage-femme doit dépister par exemple 50 femmes, mais elle n'a pas les intrants pour les faire. Ça, c'est une difficulté. D'où la nécessité que la sage-femme puisse avoir tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse au moins accomplir correctement son travail. L'autre difficulté par rapport à l'aspect PTM dont nous allons développer dans les minutes qui suivent est que généralement, on a des difficultés liées aux barrières. Par exemple, les hommes, à chaque fois qu'on lance une invitation à un homme, d'une femme enceinte, l'homme ne se présente pas. Vous voyez? Et les hommes...
Ils ne se présentent pas, pourquoi? Ils ont peur ou quoi?
Bon, généralement, ils disent qu'ils n'ont pas le temps.
Alors que c'est important.
Oh, alors c'est important. Et l'homme se met souvent à l'écart, comme si la santé de la reproduction, ça ne lui concerne pas. Donc, c'est ça de la difficulté. Et l'autre difficulté, c'est lié par rapport à la stigmatisation. La femme a peur de savoir qu'elle est VIH. Elle s'auto-stigmatise à tel point que nous amenons à convaincre cette femme-là à dire, voilà, nous faisons le counseling. Dans le counseling, nous avons des méthodologies qui nous permettent au moins de convaincre la femme à accepter les tests.
Alors, puisque vous parlez du counseling, nous avons Madame Mami Ewanza, qui est conseillère psychosociale, justement, ce programme de prévention de la transmission via SIDA de la mère à l'enfant à l'ONG International Médecins Sans Frontières. Expliquez-nous d'abord, Madame, c'est quoi votre travail? Parce que pour toutes ces femmes qui sont enceintes, dont il est important qu'elles soient dépistées pour savoir si ils ont le virus, comme ça va permettre de prévenir la prévention de la mère à l'enfant. Et c'est comment votre travail? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire comprendre à ces femmes de l'importance de se faire dépister lorsqu'on est enceinte?
Merci pour la question. Au fait, en premier, on est en face de nous une femme enceinte et on doit proposer le CDV et donner l'importance de ces tests de dépistage sur le VIH. Et après avoir donné l'importance, on fait le pré-test. Et dans le pré-test, on parle de la définition du VIH, le mode de transmission, de la période fenêtre, la période d'incubation.
Là, c'est quoi la période fenêtre? Il faut expliquer.
Merci. La période fenêtre, c'est une période de 3 mois,
oui.
De fréquence que nous attendons on attend beaucoup plus que le microbe, en fait, la multiplication de microbes jusqu'à ce que ça se voie dans le test. Jusqu'à ce que ça se voie dans le test fait.
Ça dit que voilà. le temps d'attendre pour s'assurer,
oui,
que le microbe...
Oui, c'est la mutation, je peux dire la mutation, oui, de microbe jusqu'à ce qu'il atteigne un chiffre, oui, dans le cellule. Et puis là, après, on peut faire le test, on a le résultat maintenant positif de la personne. Ça, c'est la période fenêtre. Et on explique cela, on explique la période d'incubation. Et la période d'incubation, c'est une période où on est déjà infecté, mais on n'est pas encore malade. Donc, cette période-là, ça prend beaucoup de temps. C'est entre 7 et 12 ans. Ça dépend d'une personne à une autre et ça dépend de l'organisme d'une personne à une autre. Et après toutes ces explications-là, la personne voit l'intérêt de faire son test parce que la personne peut avoir le microbe, donc la femme enceinte peut avoir déjà le microbe, mais puisqu'on a parlé de la période d'incubation qui prend beaucoup de temps, donc il s'est dit non, le mieux serait de faire le test et de savoir ce que je suis, si j'ai le VIH ou pas. Et après cela, donc la première partie là, on l'appelle le pré-test. Et après, ça vient le prélèvement, s'il donne l'accord après le pré-test. Et après le prélèvement, on attend nos minutes, bien sûr. Si on prélève, on met dans les intrants, on attend quelques minutes, bien sûr. Et puis, on va l'appeler pour le post-test. Et dans le post-test, on évalue premièrement les connaissances de ce qu'on a parlé au pré-test. Et puis, de deux, on rappelle certaines choses qu'elle avait oubliées. Et puis après, on va évaluer aussi le réaction par rapport aux résultats. Par exemple,
Allez-y, parce que je m'empresse de vous poser une question, mais allez-y.
Okay.
Oui.
Par exemple, au cas où votre résultat serait positif, on pose cette question. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Et là, vous savez déjà la réaction de la personne. Et puis après, avant de donner le résultat, vous travaillez d'abord sur la réaction qu'elle avait parlé, et c'est après que vous allez donner votre résultat. Peu importe le résultat, mais vous donnez le résultat, après le résultat, vous donner un soutien psy par rapport aux résultats que vous avez donné, parce que la personne doit accepter le résultat que vous lui avez donné en principe. Et pour accepter, il faut un soutien psy, une bonne préparation, un bon accueil. Donc tout ça, c'est le travail que je suis en train de faire.
Et là, vous faites comment? Parce que j'imagine c'est facile d'annoncer le résultat lorsque c'est négatif, mais quand c'est positif, c'est là où vraiment ça pose problème. Et que faites-vous? Il y a le mari ou bien il y a un... Comment, le mari, s'il y a un mari ou un partenaire, doit être là avant d'annoncer les résultats, bien vous annoncez directement à la femme enceinte que le test a été positif pour le VIH.
En fait, d'après le protocole, le résultat sérologique a toujours été individuel. Donc, nous, on s'assure sur la confidentialité. Quand bien même qu'ils sont venus en couple, oui, le résultat a toujours été confidentiel. Donc, on annonce à la personne, à la femme, bien sûr. Et si c'est positif ou négatif, c'est à la femme de partager son statut à son conjoint ou, je sais pas, la personne qui l'a accompagné. Mais nous, on n'a pas l'autorisation d'annoncer à l'autre personne.
Voilà, quelle est l'importance de la formation des sages-femmes? C'est le sujet en cours dans ce numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous en parlons avec nos deux invités de l'ONG internationale Médecins sans frontières. Nous avons Gilbert Kassouk, infirmier spécialiste au programme de prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, aussi à Mami Onza qui est conseillère psychosociale. Si vous êtes intéressé, vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la PJ. Je rappelle le numéro des contacts, c'est les 0 81 890 63 94, les 099 71 63 94.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Sylvain Chibangou nous appelle de Mweka. Bonjour Sylvain, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les amis de la radio Okapi qui nous suivent pendant ce temps.
On vous écoute Sylvain.
Merci beaucoup monsieur le journaliste, et avant tout je dis d'abord merci à nos invités du jour. Moi j'estime que l'importance de la formation des sages-femmes, je suis en RDC, c'est une importance très capitale. Au moins, parce que les sages-femmes actuellement travaillent et c'est un métier vraiment qui parle le vie de nouveau-nés. Et les sages-femmes doivent comprendre que ce métier ici n'est pas un métier à jouer. Ce n'est pas un métier où ils peuvent un peu jouer avec ce métier ici, non. Les femmes qui sont enceintes, qui ont des grossesses, sont exposés vraiment au danger, la mort, par exemple, actuellement, lorsque la femme part à l'hôpital pour une consultation qu'on appelle la CPN, la consultation prénatale, des fois, les autres femmes qui sont dans très différents, des milieux ruraux, des fois, les femmes ont peur d'aller se consulter. Je leur invite, je leur un peu encourage que c'est une façon pour eux d'être sûrs. Lorsqu'elles partent un peu se consulter, ça donne une précision. Ça va, je suis à l'écoute, je sais pas.
On vous écoute sans problème, Sylvain, allez-y.
D'accord. Oui. Lorsque les femmes là partent un peu se consulter, ça donne un peu du courage à leur mari. Bien sûr, je viens de suivre un peu l'intervention de l'invité qui dit concernant le VIH. Donc, ça peut d'une part, vous voyez actuellement des femmes refusent des fois d'aller se consulter, ils te disent, bon, lorsque je vais aller là-bas, peut-être je serai attrapé avec le VIH, mais je leur dis, mais c'est faux. Le VIH en soi, monsieur le journaliste, n'est pas seulement trouvé par les tests, ça c'est un plus, il ajoute un peu une connaissance là-bas. Il y a ce qu'on appelle une période fenêtre. La période fenêtre, c'est une période pendant laquelle on peut faire un test.
L'invité en a déjà parlé. Est-ce que vous avez une préoccupation que vous aimeriez partager avec nos deux invités?
Bon. Je vais te parler, je suis en train de parler.
Mais justement, parce qu'il y a d'autres auditeurs en ligne, s'il vous plaît, Sylvain, allez droit au but. On va continuer avec d'autres auditeurs, s'il vous plaît. Allez-y rapidement.
D'accord, merci beaucoup. Bon, selon moi, je trouve que les sages-femmes devront bien, bien travailler parce qu'ils ont toute la vie de gens en main.
Voilà.
Ils ne peuvent pas blaguer avec la vie des gens, c'est au moins...
Merci Sylvain Chibangou d'avoir appelé de Mweka Bukavu. Émina est en ligne. Bonjour Émina. Émina, vous êtes en ligne depuis Bukavu.
Oui, je suis là. Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour au milieu des auditeurs de la radio Capi. Et bonjour aussi aux invités.
On vous écoute Émina.
Vraiment, la seule femme qui est venue donner la vraie image d'un accouchement plutôt. Sain et sécurisé, et une maternité saine et sécurisée, c'est une femme qui devrait avoir un appui de partenaires et aussi du gouvernement. À ce qui concerne la sage-femme qui avait remplacé la femme matrone, qui causait beaucoup de dégâts humains lors de l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est une étape très, très crucial pour la femme. Et cette femme-là nécessite une femme professionnelle qui peut transformer ses difficultés et qui peut la traiter d'une manière humaine. C'est pour cela que la présence de cette femme à RDC qui nécessite une importance capitale à tous les partenaires qui militent pour le bien-être de l'enfant et aussi pour le bien-être de l'humanité tout entière. La sage-femme doit avoir aussi une formation particulière parce que c'est une femme qui donne la vie à l'individu. Et si cette femme-là est abandonnée à son triste sort, c'est une façon aussi de sacrifier d'une manière ou d'une autre l'humanité. C'est pour cela qu'à mon humble avis, monsieur Marcel Ngombo, il fallait vraiment il fallait même créer une loi spéciale pour protéger cette femme et aussi pour les filles, ou soit les femmes qui entament la filière des sages-femmes à l'université. Il faut qu'il y ait aussi certains privilèges à ce qui concerne ou pour les encourager à ce qu'ils puissent continuer à bien attendre cette notion. Parce que c'est une femme qui, d'une manière ou d'une autre, aide la communauté et remplace ou soit trouve la solution à certains défis que les femmes connaissaient pendant l'accouchement dans l'état passé. C'est pour cela que leur présence et leur formation doit à tout prix nécessiter soit prendre et être dans la priorité de priorité dans
Merci.
Le système actuel.
Merci Éminent d'avoir appelé de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je reviens ici au studio avec nos invités. Monsieur Galbert Kassouk, vous avez suivi combien les gens apprécient votre profession. En tout cas, là, il n'y a rien à dire, mais seulement le souhait est qu'on puisse vous donner toutes les bonnes conditions de travail. Mais ce qui, vous l'avez évoqué, n'est pas le cas aujourd'hui.
Bien sûr, comme je l'ai dit, je pense que moi je suis je viens parler de la sage-femme parce que ça fait partie de mes activités.
Exactement.
Alors, en ce qui concerne la valorisation de la profession tout consort, je pense que en RDC il y a une confédération de sages-femmes et c'est ensemble qui peuvent mettre des énergies pour aller de l'avant et valoriser cette profession. Donc, je ne viens pas parler ici de la politique sage-femme en RDC, mais je viens vraiment apporter ce que la femme sage fait au quotidien par rapport avec la PTM. Donc, c'est de ça que je viens à apporter, comme vous l'avez dit à l'introduction.
Et par rapport à la PTM, vous estimez que tout est réuni pour vous permettre de bien travailler par rapport à votre travail de tous les jours?
Par rapport au travail de tous les jours...
Avec, bien entendu, l'assistance de l'ONG internationale Médecins sans frontières.
Bien sûr. Donc, par rapport à cette question, monsieur le journaliste, je dois dire que la PTM, d'abord, c'est la prévention de la transmission de l'infection VIH de la mère à l'enfant.
Oui.
Alors, c'est une stratégie ou c'est un ensemble de stratégies qu'on doit mettre en place pour réduire la transmission de l'infection VIH de la mère à l'enfant. Vous voyez? Alors, cette stratégie sur le plan national, nous avons des défis à relever. Parmi ces défis, nous devons au moins atteindre le 100% des femmes doivent se faire dépister. Vous voyez,
des femmes. Mais quand vous parlez des 100% des femmes, c'est bon. Mais déjà l'accès à ce programme des PTME, c'est là où
j'en viens.
D'accord.
Les évidences montrent que pour notre pays, par exemple, nous sommes à 35% de l'accès de femmes enceintes qui se font dépister. C'est là où commence la difficulté, pour revenir à votre question.
Oui.
C'est là où commence la difficulté. Pourquoi il y a 35% de femmes qui se font dépister au lieu d'atteindre 100%? C'est lié aux différentes raisons. La première raison, la femme qui est dépistée VIH positive n'ose pas dire à son mari qu'elle a le VIH. Vous voyez? Ça, c'est la première difficulté. Et la troisième difficulté, c'est lié par rapport à ce que nous rencontrons lié aux intrants sur terrain. Et les intrants sont insuffisants, je peux dire. Il y en a, mais c'est insuffisant. Je prends dans l'arrière-pays, par exemple. Il y a des endroits où la femme, elle ne va même pas à la maternité pour commencer une CPN. Parce que, soit le centre de santé est très éloigné de sa maison. Et cette femme-là va accoucher où? À la maison. Il y a d'autres difficultés liées des accouchements hors structure. La femme qui accouche en dehors de la maternité.
Ou dans des centres de santé non viables.
Hein. Non viables, oui. Et voire même dans l'arrière-pays. Tout ça sont des difficultés. Et il y a aussi des barrières liées au transport. Hein, qui font que la femme n'a pas l'accès d'aller se faire dépister. Ici à Kinshasa, nous sommes dans la capitale, où nous le voyons, que nous avons quand même des fois des ruptures des intrants. Or, nous sommes dans la capitale. Combien à plus forte raison dans l'arrière-pays où il y a un problème d'approvisionnement? Donc, ici, nous voulons dire que nous voulons inciter toute femme enceinte de lui dire que le VIH est évitable. Dans le sens que la femme qui est enceinte doit vouloir se faire dépister pour qu'on puisse réduire la transmission de l'infection VIH de la mère à l'enfant.
Est-ce que les femmes se rendent compte de l'importance de cet aspect-là? Je me tourne vers madame Mamie Wanza. Est-ce qu'elles se rendent compte de l'importance de cet aspect que lorsque vous êtes une femme enceinte puis vous êtes dépistée positive au VIH/SIDA, ça vous permet ça permet maintenant dans le travail que vous faites d'aider de prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Et c'est rendre compte de cela, madame Mamie.
Merci pour la question. En fait, moi, je dirais, par rapport aux autres structures, je n'ai pas vraiment une réponse à donner, mais par rapport à notre structure,
oui.
En tout cas, avec le travail que nous faisons, le travail d'accompagnement psychosocial et éducation de femmes enceintes, en tout cas, dans le 90%, ils se rendent compte. Et la preuve en est que nous avons beaucoup de bébés exposé, qu'on appelle bébé exposé parce que la maman est VIH positif, qui finissent par être VIH négatif, qui naissent de la maman positif, mais le bébé ne sera pas contaminé par rapport au travail fait avec la maman. Ça, c'est par rapport à notre structure. Et on fait un grand travail de suivi avec la mère pendant le premier jour où on diagnostique la grossesse. Et après, la suite est là. Après le premier diagnostic de la grossesse, on a, en fait, pour chez nous, on a des sessions établies pour une femme enceinte vivant avec VIH. Et cette session-là est nommée PTME. On a 5 PTME, c'est-à-dire PTME 1, 2 jusqu'à 5. Bien sûr, aujourd'hui, on ne parle plus de PTME, on parle de ETME, qui est élimination de la transmission mère et enfant. Et dans ces sessions-là, la première, on travaille avec la femme enceinte et on parle de la transmission mère et enfant. On parle de l'importance de partage de la sérologie parce que si on est VIH positif, son conjoint doit être au courant pour qu'il fasse pas un problème quand vous venez à l'hôpital, quand vous allez ramener aussi même le bébé à l'hôpital pour le suivi. Et on parle de l'adhérence au traitement. Et là, vraiment, on met beaucoup d'attention sur l'adhérence au traitement parce que on veut que la maman ait une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, en tout cas, le VIH est intransmissible. Donc, on va avoir un bébé non VIH, voilà. Donc ça c'est dans le PTME 1. Dans le PTME 2, on prépare la maman à l'accouchement. Et quand on prépare la maman à l'accouchement, on parle premièrement d'abord de la préparation de son sac d'accouchement, puisqu'il doit mettre les histoires de l'enfant, il doit mettre même ses ARV, même les ARV de l'enfant. Donc tout doit être préparé en amont. Et une fois qu'elle a de contractions, elle prend juste le sac et puis elle va à l'hôpital. On prépare la maman par rapport au suivi de son bébé. Après l'accouchement, le bébé va prendre la névirapine.
On est toujours dans le PTME 2, ça. Ou bien on est dans
oui, dans le PTME 2.
On est toujours dans les deux, voilà.
Ouais. Oui, on est dans le 2. On explique comment elle va donner le produit à l'enfant, la névirapine pendant 45 jours. Et puis, après 45 jours, ça sera la Bactrim jusqu'à 18 mois. On la prépare par rapport au test que fera l'enfant. Le premier, PCR à 45 jours. Le deuxième test, on va faire le test normal comme on fait chez les adultes à 9 mois. Et le dernier, c'est à 18 mois. Puis on confirme avec le PCR encore à 18 mois. Ça, c'est d'après le Médecins Sans Frontières. Et puis après, on fait on prépare la maman par rapport au rendez-vous aussi et le respect de rendez-vous à l'hôpital, sans oublier l'aspect adhérence. Et le PTME 3, c'est maintenant le suivi du bébé exposé. Donc, quand la maman accouche, elle doit ramener le bébé à l'hôpital à 45 jours pour le premier test qu'on appelle PCR, c'est en anglais bien sûr. Et puis, le suivi, parce que l'enfant doit changer aussi le traitement, comme j'ai dit. On a expliqué, mais la faisabilité, c'est maintenant au PTME 3. Et puis, le PTME 4, c'est le test de 9 mois de l'enfant qu'on doit parler. Et à la fin, le PTME 5, c'est le test de 18 mois qu'on va faire pour que chez nous, on se sépare avec ce bébé exposé à 18 mois s'il est négatif.
Quand vous dites chez nous, c'était un long Médecins Sans Frontières.
Oui, c'est le Médecins Sans Frontières, bien sûr.
Exactement. Ouais, ouais. Mais là, on se rend compte que c'est un programme pour moi à suivre de
exactement,
près. On revient à vous, le temps de donner la parole à la deuxième vague d'auditeurs qui sont déjà en ligne. Longo qui est à Kinshasa, Kachai qui est à Kanyoka et Benjamin à Kananga. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, je rappelle le sujet, quel est l'importance de la formation de sages-femmes sur le sujet abordé dans ce numéro du magazine Okapi Service, bien entendu, dans sa deuxième partie.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Elongo nous appelle de Kinshasa. Bonjour Elongo.
Bonjour Monsieur Marcel.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue d'abord nos invités, en particulier en général les auditeurs de la radio Okapi et l'Okapi Service en général. Merci à vous de nous avoir donné la parole. À mon avis, je trouve qu'il est important de revoir la formation et faire même les recyclages pour ce service sacré de sage-femme. J'appelle ça service sacré parce que la vie humaine est sacrée également. C'est Dieu qui donne la vie, mais à l'entremise de ce service, puisque si les sages-femmes maîtrisent bel et bien leur boulot, la vie humaine également est garantie en quelque sorte, puisque c'est à eux d'orienter les mamans ou encore les femmes enceintes jusqu'au beau port. Alors, ce service-là doit être bien formé, bien protégé et gardé. Et il devait aussi avoir des formations ou des recyclages de temps à autre, puisque la technologie évolue d'une manière et d'une autre, pour éviter ce que nous subissons aujourd'hui. Le cas de césarienne est un peu exagéré. Donc, quand une sage-femme ou encore ce service n'est pas compétente, nous risquerons toujours d'avoir de cas de césarienne, de cas de perturbation ou de perte de vie humaine d'une manière et d'une autre. Alors, que la vie est sacrée.
Alors, monsieur Longo, et pour ce qui est de la prévention, parce que les invités avec nous ici au studio sont plus dans le programme de prévention, ce sont des sages-femmes, hein, mais qui sont plus dans le programme de prévention de la transmission de VIH/SIDA de la mère à l'enfant, à l'ONG International Médecins Sans Frontières. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aussi à cet aspect-là?
Par rapport à l'aspect de la prévention, moi, j'encourage cela.
Oui.
J'encourage, je dis que le gouvernement doit accompagner ce service à arriver au beau port, c'est-à-dire à matérialiser ce qui est comme un projet à ce service, puisque la prévention est capitale, très capitale, pendant que nous vivons de maladies qui affectent les enfants, non seulement le VIH-SIDA, il y a tant d'autres maladies.
Oui.
Je crois qu'eux, ils sont mieux placés pour cela. Donc, la prévention, j'encourage cela et je dis que le gouvernement, à mon avis, ne ferme pas les yeux. Il faut accompagner ce service des sages-femmes parce que la vie humaine dépend de ce service-là.
Merci, merci, monsieur Longo, d'avoir appelé de Kinshasa. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Bonjour, Kachai.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombombala et bonjour à Madame l'invitée.
Alors, qu'est-ce que vous avez, il y a aussi Monsieur l'invité, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire, Kachai, par rapport à ces sujets sur la formation de sages-femmes, mais notamment pour ce qui est de ce qui est lié à la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant?
Merci beaucoup Monsieur Marcel. Le sujet est salutaire et le service que MSF, Médecins Sans Frontières, rend à la population congolaise est un service louable. Mais vous savez, d'abord, Monsieur Marcel, ma mère à moi est sage-femme. Mais j'ai une très grande inquiétude. Parce que quand Madame a parlé de cette prévention-là, je ne sais pas quelles sont les zones d'intervention déjà ciblées. Ici, à Kananga, à Kanyoka, et le MSF est installé, mais il intervient beaucoup plus dans les territoires de Kazumba, au village de Tshibala, à l'hôpital-là. C'est là où il mène beaucoup d'actions. Pendant que les centres de santé, les maternités, les hôpitaux au centre-ville de Kananga, et aussi même à Kanyoka, parce que Kanyoka c'est un village à 6 km de la ville de Kananga, Monsieur Marcel, nos mamans qui sont sages-femmes n'ont pas reçu de telles formations pour pouvoir prévenir au cas de VIH-SIDA lors de l'accouchement. C'est parce que peut-être les structures de santé au centre-ville ne sont pas ciblées. Le programme mis en place par le MSF est très important. Mais les problèmes se posent sur base d'intervention. Il y en a qui n'ont jamais subi de telles formations, combien louables. Et si MSF passe, il vient soutenir le gouvernement congolais qui a failli en premier lieu à sa mission de protéger la vie. Et quand MSF intervient, c'est dans le cadre humanitaire. Maintenant, je voulais insister pour que madame nous dise, si le programme est arrêté pour prévenir les cas de VIH lors de l'accouchement, mais les formations sont organisées, quelles sont les zones d'intervention aussi en ville, au lieu de village, qui sont déjà arrêtées, pourvu que peut-être là où ma maman aussi travaille, au centre de santé Kanyoka, elle peut subir aussi cette formation-là, pourvu que lorsque un cas pareil viendrait, on peut sauver des vies. Car toutes les fois, bon, parce que je ne connais pas jusqu'ici un cas où on a déjà sauvé, un cas au village Kanyoka, je ne parle pas d'ailleurs, mais au village Kanyoka, il y a beaucoup, le sida n'est pas écrit sur le visage, toutes les mamans qui viennent ne présentent pas les signes vitaux de sida sur leur visage, mais lors de l'accouchement déjà, elles peuvent présenter ces signes-là. Et c'est un danger imminent pour l'enfant. On risque de perdre et voilà. La mère et l'enfant. Oui. Maintenant que la dame nous dise, oui. nous soyons aussi réconfortés. Et mon souci principal, c'est que comme ma maman sert la nation à ce service-là, dans le cadre de l'accouchement, je peux subir aussi la formation-là, pourvu que lorsque les gens viendront, les dames dire pour s'accoucher, et si elles sont sibayennes, que la vie de l'enfant soit sauvée, parce que nous avons besoin de l'enfant. Merci.
Merci Kachai de voir à plus de Kanyoka. Merci de nous faire savoir que votre maman est sage-femme. Donc tous nos encouragements à votre maman pour cette profession noble. Hein, et surtout qu'aujourd'hui, le 5 mai, c'est la journée internationale de sage-femme. Merci Kachai d'avoir appelé de Kanyoka. Benjamin, vous êtes à Kananga. Bonjour Benjamin.
Bonjour cher Marcel. Bonjour aux deux invités sur les plateaux. Bonjour également à de nombreux millions d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Benjamin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce qui est de la formation des sages-femmes, pour ce qui est, bien entendu, du programme de prévention de la transmission vers SIDA de la mère à l'enfant?
Merci beaucoup, cher Marcel, pour l'octroi de la parole. Je m'en vais d'abord d'entrée déjà souhaiter une bonne célébration à toutes les sages-femmes. Je crois de même être dit, c'est une célébration. En rapport avec la formation visant à l'idée à assurer la prévention des VIH-SIDA, vous voyez même que dans le test retenu cette année, on met beaucoup l'accent plus sur la formation. Et ça veut dire que la formation s'avère capitale pour améliorer même la qualité du travail qui doit être fait par le sage-femme. Parce que nous remarquerons que beaucoup de sages-femmes aujourd'hui, excusez-moi le terme, si peut-être ne sont pas à la hauteur de leurs attributions et n'ont pas réussi une bonne formation, parfois elles peuvent faire accoucher mal les femmes. Et voilà, après l'accouchement, il y a beaucoup de complications. Parfois, le cordon ombilical de l'enfant qui pose problème, parfois ça ne se détache pas. Donc, ça peut poser des soucis à ce niveau-là. Alors, par rapport avec la lutte contre les VIH-SIDA, j'ai quelques préoccupations à poser aux invités. Parce que nous savons que les VIH-SIDA, c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais dès lors qu'il y a, par exemple, union entre un homme et une femme, mais lorsqu'il y a éjaculation, par exemple, on ne peut pas éjaculer le sang. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas le VIH-SIDA peut attraper cette maladie-là dès lors que c'est une maladie qui est dans le sang? Et une autre question, M. Marcel, lorsque la femme va naître, la femme peut-être qui est victime de cette maladie-là, lorsqu'elle va naître, lorsqu'elle va donner naissance à un bébé, peut-être que ce bébé-là a déjà le VIH-SIDA. C'est peut-être faute de prévention. Est-ce que si on appelle aux soins médicaux, parce que j'ai suivi Mme l'invité, elle a dit on doit amener l'enfant 45 jours après naissance pour les premiers tests. Et on amène un enfant comme ça. Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'il y a moyen que cette maladie-là soit éliminée dans le sang de l'enfant, dès lors que ça peut être une maladie qui se trouve dans le sang? Voilà, moi, à ce niveau-là, ça pose vraiment de soucis. Et nous pensons que le thème choisi cette année, ça va être très important. Nos autorités doivent ouvrir l'œil pour que des séries de formations soient accordées à des sages-femmes qui rendent vraiment un service de qualité à travers la République démocratique du Congo.
Merci, vous insistez également sur la formation. Merci d'avoir appelé de Kananga. Ramsès, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour Ramsès. Rapidement, votre intervention Ramsès par rapport à ces sujets sur la formation des sages-femmes. Ramsès, vous êtes en ligne depuis Kasumbalesa. Il a des légers soucis avec la ligne de Ramsès. On va prendre alors le dernier auditeur qui nous appelle de Walikalis. Il s'agit du docteur Bouchou. Docteur Bouchou, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service. On parle de l'importance de la formation des sages-femmes. Et là, on est en train d'insister sur ce qui est de la prévention de la transmission du virus vers SIDA de la mère à l'enfant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Oui, merci Radio Capi. Je suis très ravi à suivre cette émission. Moi-même, je suis Monsieur Tretal, président de Warikal, et je suis chef de service de la maternité. Nous sommes appuyés par MSF. En tout cas, le travail que MSF fait avec nos sages-femmes, c'est un travail très louable. En tout cas, pour les services de maternité et les centres de santé appuyés par MSF, il y a un beau suivi. En tout cas, toutes les femmes à la semaine, et sur le pistes dames refusent aussi le dépistage, mais la plupart des femmes, en tout cas, il y a un beau suivi, c'est un beau travail. Et nous félicitons nos partenaires à nous appuyer pour la PTM. Merci Radio Capi et merci à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, merci Dr Boutchou depuis Walikale par rapport à ce travail que fait l'ONG International Médecins Sans Frontières pour ce qui est de la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Je reviens dans ce studio pour retrouver nos invités et conclure par rapport à ce sujet sur la formation des sages-femmes. Vous avez suivi les différents intervenants de part et d'autre et qui ont insisté beaucoup par rapport à la formation. Vous avez même suivi Kachia qui a appelé de Kanyoka, dont la mère est sage-femme. Hein. Il a également insisté sur la formation. Et puis cette question pour Madame Ami sur les enfants qui sont suivis hein, pour les différents pétitions dont vous avez parlé, vous allez répondre à ceux de toi qui a cherché à comprendre et par rapport à la transmission du VIH/SIDA, comment ça se passe. Mais je me tourne d'abord vers du côté de l'infirmier spécialiste au programme Galbert Kasuku pour ce qui est de la formation.
D'abord, merci beaucoup, monsieur journaliste. Je voudrais aussi apporter un éclaircissement à notre auditeur
oui.
qui a parlé. Qui se pose une question que comment les microbes VIH se trouvent dans le sang,
oui.
mais l'homme lors de l'éjaculation n'éjacule pas du sang. Alors, je voudrais dire que le microbe VIH se trouve dans les liquides biologiques, dans le sang et dans les spermatozoïdes, dans le sperme. Vous voyez?
Oui.
Donc, quand l'homme fait son éjaculat de sperme, c'est là où se trouve l'homme qui est infecté du VIH, c'est là où son liquide spermatozoïde là est infecté aussi. C'est pourquoi la femme contracte ça. Vous voyez? Donc ça, c'est la première nuance que je voudrais apporter.
Vous voulez compléter, oui. Madame Ami?
Merci. Au fait, les milieux riches en VIH chez différentes personnes. Donc l'homme, comme vient de dire Galbert, c'est le sang et ce sont le liquide biologique et le sperme. C'est-à-dire quand on a un rapport sexuel non protégé et que la personne qui est infectée éjacule par exemple, il y a contamination. Par contre, chez la femme, ce sont de liquides biologiques, bien sûr. Il y a le sang, le sécrétion vaginale, il y a le liquide amniotique, et c'est là où on retrouve le microbe VIH. Donc, il suffit de faire un rapport sexuel non protégé, on est contaminé du VIH.
Alors voilà. Vous avez la parole, on va finir avec vous et ça sera votre conclusion. Si vous pouvez réagir par rapport aux différents programmes de PTM, surtout ce qui est du suivi de l'enfant dont la mère a été testée VIH positif. Parce que c'était aussi une préoccupation d'un auditeur. Oui.
Ok, merci. En fait, moi je dirais la femme vivant avec VIH, la femme enceinte vivant avec VIH a droit à la vie comme toute femme. Et elle a aussi droit aux procréations. D'où on doit aider cette femme-là par nos sessions, comme je venais d'expliquer, pour que cette femme finisse par baisser sa charge virale et que cette femme ne contamine pas son bébé. Et le suivi de bébé, bien sûr, ça se fait chez nous, au CHK, bien sûr, dans le centre hospitalier de Cabinda, où Médecins Sans Frontières œuvre, mais aussi dans le centre de santé que Médecins Sans Frontières appuie. Parce que Médecins Sans Frontières appuie certains centres de santé dans le volet décentralisation. Malheureusement, on ne sait pas atteindre toute la capitale par rapport à cet appui. Donc, on fait centre par centre pendant un moment et après, on va quitter pour aller ailleurs. Et là, partout où on passe, on implémente cette activité en espérant que beaucoup de femmes enceintes vivant avec VIH auront de charges virales indétectables et puis elles auront des enfants sans VIH.
De vous encourager les femmes enceintes à ne pas hésiter de se faire dépister. Il y va de leur propre intérêt de l'enfant qui n'est
pas. Exactement, c'est ça.
Voilà, merci Madame Amie Wonza. Vous êtes conseillère psychosociale au programme de prévention de la transmission du virus de SIDA de la mère à l'enfant à l'ONG internationale aux Médecins sans frontières. Merci d'avoir été de notre.
Merci beaucoup à vous.
Voilà,
aussi.
À vous aussi de conclure, Galbert Kasuku, surtout pour ce qui est de la formation, par rapport à ce que Kachaya dit, hein, il y a un problème de formation aussi, certainement à l'intérieur du pays, peut-être même ici à Kinshasa aussi.
Oui. D'abord, il a dit que MSF se trouve dans sa province, mais il intervient à côté des autres.
Dans les centres plutôt que dans les villages. Oui.
Bon, en fait, MSF agit là où il y a les besoins. Ça, c'est la nuance que je voulais apporter aussi. Là où il y a les besoins. Et c'est pourquoi il se trouve dans ce contexte-là. Par rapport au sujet du jour, moi, ce que je vais dire, que l'importance de la PTM, c'est d'amener à ce qu'on ait une génération sans VIH. Ça, c'est d'abord l'importance réelle par rapport aux objectifs du millénaire. Et dans nos structures, nous montrons l'importance de se faire dépister dans le sens que on doit éviter la maman qui a l'infection VIH, il a le risque de transmettre à son enfant l'infection VIH. Alors, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous avons une femme enceinte qui est VIH positive? Cette femme-là, nous la mettons immédiatement sous traitement parce que les antirétroviraux vont faire en sorte que cette maman-là puisse diminuer sa charge virale. Et ce qui va faire en sorte que, comme mamie venait de le dire, ça va diminuer la charge virale et l'enfant a moins de risques de contracter l'infection. Vous voyez? Et nous mettons en place un programme de suivi du bébé de la naissance jusqu'à 18 mois. Donc, pendant ce suivi-là, nous donnons la nivérapine à l'enfant à la naissance et nous suivons les examens, ce que nous appelons communément les examens précoces du diagnostic pour l'enfant. Parce que nous savons que l'enfant peut contracter l'infection VIH pendant qu'il est dans le ventre, dans l'utérus, soit lors de l'accouchement et pendant l'allaitement. C'est pourquoi le programme PTM ne cible pas seulement les femmes enceintes, mais il y a une continuité. Même les femmes allaitantes.
Oui.
Nous les dépistons aussi. Je voudrais revenir à la question.
Rapidement,
parce que je voudrais revenir à dans nos centres que nous appuyons, le centre MSF. Vous avez vu, je vous ai parlé de 30% sur le tannier national, 35%. Oui. Mais dans nos structures que MSF appuie, nous sommes à 100% de taux de dépistage. Pourquoi? C'est parce que même s'il y a des ruptures dans ces structures-là, nous faisons ce que nous appelons le gap filling. Donc, nous venons suppléer à ce qui manque. Mais, c'est normalement d'autres bailleurs qui apportent les intrants dans la structure. Et non seulement ça, nous faisons le suivi au quotidien qui est des intrants dans la structure pour que les femmes que nous recevons puissent avoir l'accès au dépistage pour prévenir la transmission VIH de la mère à l'enfant.
Merci à Galbert Kasuku. Ça sera ça. Allez-y rapidement, madame Mamion.
Pour compléter, Galbert, on doit savoir que Médecins sans frontières, c'est vraiment le volet médical. Donc, nous, on est dans le volet médical. On ne sort pas à côté du volet médical.
Bon, vous avez encore conduit la parole parce que vous êtes. C'est la célébration de votre journée, mais on était déjà à la fin.
Merci
à monsieur Galbert Kasuku, infirmier spécialiste au programme de prévention de la transmission vers SIDA, de la mère à l'enfant, à l'ONG International Médecins sans frontières. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver tous les deux prochainement pour parler encore de cette profession noble de sage-femme.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup.
Nice.
Cruz. Yeah.
de mal, pourquoi tu as changé? Notre histoire à nous se raconte à deux. Je suis seul à la compter. Je suis seul à murmurer.
Erreurs.